une fille qui avait la mucoviscidose et qui a été guérie, avalé cela. Et donc elle a dû avoir une deuxième guérison. Parce que la première, bah, ça l'avait mis dans une situation encore plus difficile que sa première situation. Vous voyez, c'est ça la guérison. Oui, nous nous voyons ça généralement comme extérieur, hein. Nous sommes matériels, nous sommes de la terre, ce qui est charnel, charnel. C'est que la terre est terrestre. Jésus nous l'avait bien dit. Jésus leur répondit, mon père, jusqu'à présent, œuvre et moi je. Donc voilà, Jésus va répondre. Vous remarquerez que nous sommes devant un nouvel interrogatoire. Mais que c'est un interrogatoire maintenant, hein, et l'interrogatoire d'un suspect. Ce n'est pas un témoin. Le témoin, c'était l'homme qui a été guéri. On l'a interrogé, et puis on passe au suspect. Et on fait venir, on interroge. Et Jésus se défend. Et Jésus se défend, on le voit, dans ce texte qu'on appelle le discours sur l'œuvre du Fils, il se défend, bonne et due forme, en montrant, d'abord, verset 19 à 30, en faisant une sorte de plaidoirie, c'est l'accusé qui plaide, et qui dit ce qu'il a fait, et puis, parce que ça continue, hein, les versets 30 au verset 40, il a cité ses témoins, témoin à décharge. Et puis du verset 31 au verset 47, donc à la fin, il y a une sorte de réquisitoire ou de jugement. Donc nous commençons à entrer vraiment avec ce chapitre 5 dans le procès. C'est plus qu'un interrogatoire. Hein, nous sommes ici devant la justice de paix. C'est une véritable action en justice. Et donc Jésus, accusé, et nous allons voir de quoi il est accusé, va se défendre. Or Jésus leur répondait, « Mon Père, jusqu'à présent, œuvre, et moi, j'œuvre. » Mon Père travaille, moi je travaille. On est associés, autrement dit, on travaille ensemble, à la même œuvre. Donc il n'y en a qu'une. Oh, mais c'est important ce que tu dis là. Mon père et toi. Est-ce que c'est de la terre ou est-ce que c'est du ciel? Si c'est de la terre, ça va. Mais il faut savoir pourquoi vous travaillez le dimanche, vous autres. Vous n'êtes pas quand même des païens. Mais si le père, c'est le ciel, vient du ciel, alors c'est que tu te déclares céleste toi aussi. En raison de ceci donc, il cherchait plutôt les Juifs à le tuer, parce que non seulement il déliait le sabbat, mais aussi parce que son propre père, il le disait Dieu. Ils ont bien compris. Il répondait donc Jésus et il leur disait, amen, amen, je vous dis, il ne peut pas le Fils faire à partir de lui-même rien, si éventuellement il ne regarde pas ce que fait le Père. Car ce qu'éventuellement il fait celui-là, cela aussi le Fils semblablement le fait. Ils sont conjugués dans la même œuvre. Et quelle est l'œuvre du Père? Ah, derrière toute cette histoire, et Jésus a touché immédiatement le nerf sensible, mon Père jusqu'à présent œuvre et moi j'œuvre. C'est le jusqu'à présent qui faisait problème à certains lieux. Le problème était celui-ci. Quand Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, il a donné la chypnose initiale et puis il l'a laissé à l'homme et l'homme n'a qu'à se débrouiller. Ou bien, Il a créé le monde, il a donné la chypnose initiale et il continue tout le temps de donner la chypnose initiale, c'est-à-dire la providence. Les pharisiens acceptaient la providence, les sadducéens n'acceptaient pas la providence. Ils parlaient hein, de chypnose initiale, point. Tandis que les pharisiens pensaient que Dieu œuvre toujours avec l'homme. Alors, Jésus entre bien dans la mentalité pharisienne, comme vous le voyez, mais en même temps, et c'est ça qui ne va pas, mais en même temps, en se disant semblable au Père, le Fils fait semblablement ce que le Père fait. C'est ce semblablement qui fait problème. Car le Père affectionne le Fils. Saint Jean utilise deux mots pour dire aimer. Le mot agapao, agapam, c'est l'amour de Dieu. Et puis il y a l'amour humain, philos, l'amour d'amitié, l'amour de bienveillance, comme dirait saint Thomas. Le Père affectionne le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Lui. Montrer ce que quand le Père montre ce qu'il fait, il lui donne tous ses secrets, tous les secrets de sa fabrication. Donc ça veut dire qu'il y a un lien intime. Et des œuvres plus grandes que celles-ci, il lui montrera. Afin que vous soyez étonnés. Mais qu'est-ce qu'il a fait, l'exemple? Il a mis un homme debout, tiens. Un homme qui était couché, il a mis debout. Dieu vient fait. Dieu fait ça depuis le début. Il a mis un homme debout aussi, au jardin d'Éden. Car tout comme le Père éveille les morts et les vivifie, il les vivifie, il leur donne la vie. Ainsi aussi le Fils, ce qu'il veut, c'est-à-dire gratuitement, il les vivifie. Car le Père non plus ne juge personne. On dirait qu'il s'adresse à des juifs qui ont déjà entendu le discours à Nicodème. Hein? Le Père non plus ne juge personne. Mais tout jugement, il le donna au Fils. Pourtant, le Fils n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jugement est désormais un jugement de salut, ce n'est pas un jugement de condamnation. Et le Fils juge au sens où il montre ce qu'est le salut, en sa personne. Mais tout jugement, il le donna au Fils. Afin que tous honorent le Fils, selon qu'ils honorent le Père. Et puis de nouveau le discours de sagesse, hein, la réflexion de Jean. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui le manda. Amen, amen, je vous dis, celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui me manda a vie éternelle. Et vers un jugement, il ne vient pas. Jugement, de nouveau au sens de condamnation. Mais il se trouve transporté de la mort vers la vie. Amen, amen, je vous dis, vient une heure, si on avait entendu là, le discours avec la Samaritaine, vient une heure, et c'est maintenant, quand les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu, vivront. Il reprend le livre de Daniel, chapitre 12, versets 1 et 2. Ceux qui dorment au pays de la poussière surgiront. Donc il reprend vraiment la théologie pharisienne. Théologie de la providence, théologie de la résurrection. Donc il s'inscrit dans le droit fil des pharisiens. Donc sa défense, une défense qui peut être acceptée par les juifs pharisiens qui l'entendent. Vient une heure et c'est maintenant, quand les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ça, c'est pas compliqué. La voix de Dieu, ça va, mais la voix du Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un premier-né d'entre les morts. Ça veut dire qu'il y a un Messie. Et quand Jésus dit la voix du Fils de Dieu, on voit bien qu'il vient de parler du Fils et du Fils du Père qui est Dieu. On voit bien qu'il s'identifie. C'est ça qui fait le problème. C'est l'identification de Jésus avec celui-là. Et ceux qui auront entendu, bon, c'est les morts qui entendent. Même. Car comme le Père a vie en lui-même, ainsi aussi il donna au Fils d'avoir vie en lui-même. C'est une manière de dire, ce que nous disons dans le Credo, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. et lui donna autorité de faire jugement parce que fils de l'homme. Et il cite implicitement Daniel 7, 13, le fils de l'homme qui vient juger l'humanité entière. Ne vous étonnez pas de ceci, parce que vient une heure en laquelle ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Et ils s'en iront, ceux qui firent le bien vers une résurrection de vie, et ceux qui agirent le laid, ceux qui ont fait du laid, vers une résurrection de jugement. Autrement dit, celui qui est le vrai test de l'humanité, c'est Jésus. Jésus qui donne vie. Si je ne reçois pas la vie de lui, je suis dans la mort. Bon, nous arrêtons ici. Donc nous reprenons à 11h15.
Là. Est-ce qu'on bosse ici?
J'ai un autre qui est plus grand que le sien. Car les œuvres que me donna le Père afin que je les consomme, ces œuvres que je fais, elles rendent témoignage à mon sujet que le Père m'a envoyé. Jean, c'est un témoignage humain. Vous pouvez l'interroger, c'est un homme comme lui. Mais il y a un autre témoin. C'est le Père. Mais le Père n'apparaît pas tel quel. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Alors comment le Père apparaît-il? À travers les œuvres que je fais. Ce sont des œuvres qui font vivre. Et celui qui fait vivre, c'est le Créateur, et c'est celui qui ramène son peuple d'Israël, et qui le fait vivre quand il est mort. N'oubliez pas le chapitre 37e d'Ézéchiel, les ossements desséchés. Israël est comme un peuple d'ossements desséchés, ils sont tous partis en exil, et le prophète est appelé pour faire se redresser, se remettre debout, tous ces ossements desséchés, les jointures se remettent, et ils se couvrent de peau et de nez, mais il faut encore prophétiser une deuxième fois pour que l'esprit vienne en eux, le souffle de Dieu. C'est à tout ça que Jésus fait allusion. Les œuvres que me donna le Père afin que je les consomme, ces œuvres que je fais, elles rendent témoignage à mon sujet que le Père m'a envoyé. Mais pour ça, il devait d'abord dire, c'est pas moi qui agis, c'est le Père qui agit en moi. Ça, c'est le principe. Deuxièmement, un premier témoin, Jean-Baptiste. Il a dit, c'est bien cet homme-là qui vous a dit. Et vous-même, vous êtes allé chez lui et vous avez expérimenté qu'il disait vrai. Donc, allez jusqu'au bout et venez jusqu'à moi. Deuxièmement, le Père agit en moi. Comment le voyez-vous? Regardez les œuvres que j'ai. Et vous voyez bien que ces œuvres que je fais sont vraiment les œuvres de Dieu créateur et rédempteur. Et le Père qui me manda, celui-là a rendu témoignage à mon sujet. Mais sa voix jamais vous ne l'avez entendue. Ni son aspect vous ne l'avez vu.
Ah oui,
mais on ne se voit pas. Et sa parole, vous ne l'avez pas demeurant en vous. Parce que celui qui l'envoya, celui-là, à lui vous ne croyez. Et c'est la connivence qui est nécessaire, dont je vous parlais tout à l'heure. En termes de théologie, ça se dit, il y a le témoignage extérieur et il y a le témoignage intérieur. C'est-à-dire, pour qu'on puisse croire, il faut découvrir que cette personne, Jésus, me vient d'ailleurs, me pose une question fondamentale, la question même de Dieu. Mais il faut aussi que, intérieurement, j'entende Dieu qui m'appelle à regarder ce témoignage. Et s'il n'y a pas connexion du témoignage extérieur et du témoignage intérieur, il ne peut pas y avoir foi. Il faut que Dieu en moi aille à la rencontre de Dieu en Jésus. C'est bien ce que Jésus nous dit. Nous le disons en termes théologiques, mais ici, Jésus le dit à sa manière, à travers la réflexion de Jean. Si vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, vous ne le reconnaîtrez pas. Donc ça veut dire que Jésus se précède toujours en nous. Jésus n'est pas seulement extérieur à nous, il est aussi intérieur. Pourquoi? Le principe avait été donné dans le prologue, parce que il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à chacun d'entre nous. Il a donné ce pouvoir de par la création elle-même. L'homme est fait de même. Bon. Maintenant, il va partir ailleurs. Bon. Il s'est défendu lui-même, il a expliqué ce qu'il faisait. Il a cité deux témoins, à Descartes, Jean-Baptiste et le Père. Maintenant, il va passer à un autre témoignage, si vous voulez, à la réalité des Écritures. Là, au moins, on est d'accord sur les Écritures. Ce sont les vôtres, ce sont les miennes. Et aucun d'entre nous ne met l'Écriture en question. Elle est parole. Eh bien, regardez maintenant comment l'Écriture vient au secours de ce que je dis. Scrutez l'Écriture. En hébreu, scruter l'Écriture se dit faire un midrash, d'arrache. Essayez de creuser l'Écriture pour trouver son sens profond. Parce que vous, vous pensez en elle avoir vie éternelle. Vous pensez que c'est la fidélité à l'Écriture qui va vous donner vie éternelle. D'accord ? Je ne suis pas contre. Et donc, si l'Écriture parle de moi, alors l'Écriture vous dit que la vie éternelle, c'est par moi que vous l'aurez. Vous voyez le raisonnement ? Je sais bien que ce sont des passages qu'on ne lit pas dans la messe, à la messe, parce que c'est un peu compliqué, vous voyez. Mais on les lit par petits morceaux. Mais seulement, ça dit quand même des choses intéressantes. C'est vrai, heureusement qu'on ne les lit pas. Il faudrait que nos...
On devrait sortir ce choix.
Oui, oui. Nos paroissiens et nous-mêmes, nous soyons un peu plus... Venons un peu plus approfondis ces choses-là, déjà. Scrutez les Écritures parce que vous, vous pensez en elles avoir la vie. Et celles-là sont celles qui rendent témoignage à mon Dieu. Bah, finalement, vous avez encore un autre témoin, un troisième, deux ou trois témoins avec des textes. Hein. Mais vous en avez deux, et les Écritures sont aussi un témoin. Et vous ne voulez pas venir auprès de moi, afin que vous vous ayez. Donc, les Écritures parlent de moi, vous allez jusqu'aux Écritures, et vous n'allez pas jusqu'au bout des Écritures, c'est-à-dire que vous ne venez pas jusqu'à moi. Vous remarquerez que l'accusation portée contre Jésus est retournée. Ça vient une accusation portée contre ceux qui portent l'accusation. Maintenant, une sorte de péroraison du discours qui est un réquisitoire. Les accusateurs deviennent les accusés. Une gloire de chez les hommes, je ne reçois pas, ou je ne prends. Mais je vous ai connu. Parce que l'amour de Dieu, vous ne l'avez pas en lui-même. Autrement dit, j'ai connu, j'ai le test que vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu. Vous l'empêchez de vivre en vous, l'amour de Dieu. Vous n'allez pas jusqu'au bout de cet amour. Vous rétrécissez cet amour en jugeant moi-même, à partir de la manière dont vous interprétez mes gestes. Toujours ce que nous faisons. Quand nous jugeons quelqu'un, nous interprétons toujours ses gestes d'une certaine manière,
à partir de nous, évidemment.
C'est normal. Nous ne pouvons pas faire autrement. Mais c'est le premier pas. Alors, allez plus loin, dit Jésus. Scrutez les Écritures, et puis dépasser votre propre point de vue pour venir jusqu'à moi. Mais à travers cet élément des Écritures sur lesquels nous sommes bien d'accord. Moi, je suis venu dans le nom de mon Père, c'est-à-dire dans la personne de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si éventuellement un autre venait dans le nom le sien propre, celui-là vous le recevez. Quand vous avez un beau parleur, qui parle en son propre nom, bravo. Quand vous avez quelqu'un qui s'efface absolument derrière celui dont il parle, vous n'en savez pas. Il y a une incohérence quand même là-dedans. Alors, prenez acte de votre propre incohérence. Vous allez commencer à adhérer à moi. Et éventuellement un autre, pardon.
On pourrait dire que c'est un langage un peu totalitaire. Le politicien fait le mot comme ça, si vous voulez. Et on le. Enfin, je dis ça un peu en
anglais. Oui.
Mais au fond, ils disent toute la vérité, c'est moi. Jésus peut le dire.
Jésus peut le dire à la mesure où il dit toute la vérité, ce n'est pas moi. Et justement, hein, on peut le dire dans la mesure, on ne peut pas le dire dans la mesure où on ramène tout à sa propre personne. Et justement, Jésus a pris comme point de départ, hein, je ne peux, moi, faire à partir de moi-même rien. Il faudra qu'il en donne la preuve. Hein. Cette parole-là me fait aller jusqu'à la mort. Alors, c'est une parole totalisante, est-elle totalitaire? C'est-à-dire, elle est totalisante parce que, de fait, il dit, je suis le seul chemin. Il totalise absolument. Et on a l'impression qu'il veut tout récupérer pour lui. Maintenant, est-elle totalitaire? C'est la question qu'il pose. C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'impose comme cela, en dehors de la liberté? Ou bien, est-ce que c'est une invitation à entrer dans une liberté? Mais tu poses bien la question. Parce que de l'extérieur, et d'ailleurs les pharisiens vont regarder ce discours comme étant quelque chose de totalitaire, c'est-à-dire il veut en imposer, il veut se mettre en avant. Chez saint Paul, tu as la même chose. Saint Paul dit, imitez-moi, comme je suis l'imitateur de Christ. Maintenant, il faut vérifier qu'il est l'imitateur de Christ. Et c'est sa vie qui peut le vérifier. Donc le témoin est toujours lié à... Je dirais à la vérité ou la véracité de son propre témoignage. Donc, ce que Jésus dit, il ne peut le dire que s'il le fait. À charge donc de le faire plus tard. Comment vous pouvez-vous croire en recevant une gloire les uns chez les autres, et la gloire, celle de chez le seul Dieu, vous ne la cherchez pas. Vous vous entendez. C'est ce qui se passe exactement dans la politique ou dans la société de notre époque. On se met d'accord sur un certain nombre de principes. Que ces principes soient politiques, qu'ils soient éthiques, hein, qu'ils soient sociaux, peu importe. On se met d'accord, c'est-à-dire on cherche la gloire, on cherche l'assentiment les uns des autres. On se met d'accord sur. Mais vous avez à vous mettre d'accord sur... et à vous juger à partir de la vérité, c'est-à-dire d'un principe transcendant. La gloire de chez le seul Dieu, on la cherche pas. Donc ce sont des gens qui se disent, hein, les tenants de l'Écriture, les fidèles de l'Écriture. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai auprès du Père. Vous m'accusez, mais ne pensez pas que moi je vais vous accuser. Celui qui vous accuse, ça va loin. C'est Moïse. Et là, Jésus fonctionne vraiment comme un rabbin. Hein. Bon, il y a un point sur lequel nous sommes absolument au clair, c'est que c'est Moïse qui vous a donné à tort. Et que c'est lui le point de départ essentiel. Eh bien, Moïse est en train de vous accuser. Pourquoi? Parce que Moïse a écrit le mot dans la loi. Si on veut. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, vers lequel vous, vous avez espéré. Si vous croyez à Moïse, vous croiriez éventuellement à moi. C'est éventuellement, que je cite chaque fois qu'il y a le mot « an » en grec, qui marque précisément une éventualité. C'est un espace de liberté. Vous êtes invité, vous n'êtes pas forcé de croire, vous êtes invité à croire. Et si vous croyez à Moïse, eh bien, pareillement, vous allez croire à moi. Pourquoi? Parce que Moïse et moi, nous allons dans la même ligne. Car à mon sujet, celui-ci écrit. Quand Moïse écrivait, il avait Jésus en tête, dans le cœur. Or, si aux lettres de celui-là, vous ne croyez pas, comment, à mes paroles événements, croirez-vous? Du point de vue de l'argumentation, en termes de procès, c'est sans faille.
Quand même, la phrase, c'est sûr que nous pensons à lui. Parce que là, il y a un truc.
Cela, on ne peut le dire qu'à des gens qui croient dans le chemin de la conviction. Mais bien sûr, et c'est ça qui est le, non pas la faille du discours, mais le point décisif du discours, c'est que qui es-tu pour dire que Moïse pensait bon? Et Jésus ne peut pas le prouver. Il peut le montrer, il peut montrer la cohérence, c'est ça qu'il veut dire, hein. Ce que je dis est en cohérence parfaite avec la loi de Moïse. Est-ce que Moïse avait rentré de Jésus sans bien sûr que non. Cependant, il y a dans la tradition, et ce n'est pas seulement la tradition juive, c'est la tradition déjà inscrite dans le livre, un passage fort intéressant et qui est toujours utilisé dans le Nouveau Testament, c'est au chapitre 18e du Deutéronome. Deutéronome est un livre important pour comprendre. Vous avez un passage où l'on parle du prophète. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Et le Deutéronome voit Moïse toujours comme un prophète. Non pas uniquement comme le législateur, ça aussi bien sûr, mais surtout comme un prophète. C'est-à-dire celui qui est, qui lit les événements de l'histoire avec le regard de Dieu, hein? Et deuxièmement, lisant l'histoire sous le regard de Dieu, voit ce qui va arriver, au sens de, il voit la cohérence du regard de Dieu. Lorsque tu seras entré, donc c'est sur le des prophètes, chapitre 18, verset 9 et suivant, du Deutéronome, lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. Les abominations, c'est-à-dire suivre d'autres valeurs que Dieu. En termes de la Bible, ça dit adorer des idoles. C'est ce que nous faisons tous, adorer des idoles, c'est-à-dire mettre au départ de notre vie un certain nombre de valeurs qui ne sont pas transcendantes. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille. Ce sont les pratiques d'un cananéen. Qui pratique divination, incantation, mantique ou magie. Personne qui use des charmes, qui interroge les spectres ou les esprits, qui invoque les morts.
User en charme.
Non, car quiconque fait ces choses-là est en abomination au Seigneur ton Dieu, et c'est à cause de ces abominations que le Seigneur ton Dieu chasse ces nations devant toi. Donc ici, elle donne une explication de l'idolâtrie qui se referme sur elle-même. Il y a une sorte de justice immanente dans l'idolâtrie. Quand tu poursuis des valeurs qui ne sont pas la valeur essentielle, tu es finalement mangé par ces valeurs. Alors, tu seras parfaitement fidèle au Seigneur ton Dieu. Donc ça, c'est le principe transcendant. Car ces nations que tu dépossèdes écoutaient en chanteurs et devins. Mais tel n'a pas été pour toi le don du Seigneur ton Dieu. Eux, ils devaient bien suivre Madame Soleil, parce qu'il n'avait rien d'autre. Mais toi, tu as autre chose que Madame Soleil, quelque chose de plus important. Le Seigneur, ton Dieu, suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. Et Moïse parle de lui. Moïse parle d'un prophète qui va reprendre en charge ce que lui a fait.
C'est pour ça qu'on demande au baptiste que tu le
prophète. Oui. Le prophète qui va venir, et dont on beaucoup pensait que c'était Jérémie qui reviendrait, le type du prophète. Mais c'est aussi Moïse. Ou un second Moïse. Un prophète semblable à Moïse. Alors, je continue le texte. Le Seigneur, ton Dieu, suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. Dans la transfiguration, vous avez précisément écoutez-le. Que vous écouterez. Je n'ai pas écouté Moïse. Et pourtant, Moïse parlait de moi. Il parlait de son successeur.
Vous voyez, on réfère à ce passage de Deutéronome. Compris, évidemment, la lumière de Jésus.
C'est cela même que tu as demandé au Seigneur ton Dieu à l'Horeb, au jour de l'Assemblée, pour ne pas mourir.
Vous voyez, Jésus qui fait vivre.
Je n'écouterai plus la voix du Seigneur mon Dieu, et je ne regarderai plus ce grand feu. Vous aviez peur, hein? Vous aviez peur de Dieu qui pourrait vous voler. Et le Seigneur me dit, ils ont bien parlé, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc il s'agit bien ici dans l'interprétation que Jésus en fait de lui-même. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si un homme n'écoute pas mes paroles que ce prophète aura prononcé en mon nom, c'est tout le monde qui parle, hein, au nom de Dieu, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. Et si un prophète a l'audace de dire en mon nom une chose que je n'ai pas commandé de dire, et s'il parle au nom d'autre Dieu, hein, puisqu'il vient en son propre nom, ce prophète mourra. Mais voyez l'ambiguïté, or Jésus va mourir. Donc ce n'est pas clair, son témoignage ne sera pas clair. Son témoignage est livré à la foi des hommes. Peut-être vas-tu dire en ton cœur, comment saurons-nous que cette parole, le Seigneur ne l'a pas dit? Hein, faudra quand même faire la preuve. Comment on va savoir si c'est un vrai prophète ou un faux prophète? Si ce prophète a parlé au nom du Seigneur, et que sa parole reste sans effet et ne s'accomplisse pas, alors le Seigneur n'a pas dit ces choses-là. Le prophète a parlé avec présomption, tu n'as pas à le craindre. Mais entre-temps, le prophète est mort.
Mais les autres prophètes aussi, tous sont décrits là, finalement.
Tous sont décrits là.
Les vrais et les faux.
Mais il dit le prophète. Et il faut encore faire le test du prophète. Ils sont en train de faire le test du prophète. Et Jésus dit, le test du prophète, le prophète ne peut pas se prouver. Il ne peut que rendre témoignage. Alors, il peut nommer d'autres témoins, et le plus grand témoin qu'il puisse évidemment amener à la barre, c'est Moïse. Jean-Baptiste qui reprend tout l'Ancien Testament, le Père dans les œuvres qu'il fait, et finalement les Écritures. C'est Moïse. Mais cela est livré à la liberté de l'homme. Rien n'est évident. La foi n'est pas une évidence.
Jésus se réunit avec le prophète, le Messie.
Ah, sauf s'il a cette prétention qu'il a ici, qu'on ne peut passer que par lui, parce qu'il est le. Il est prophète, il se présente comme prophète, mais il a d'abord posé qu'il était le fils du Père. Mon Père travaille toujours et moi aussi je travaille. Il est prophète à partir de sa qualité de fils. Donc quand il fait cela, il fait quelque chose qui est inouï pour les Juifs. Parce que pour les Juifs, le terme de fils, être fils de Dieu, c'est toujours métaphorique. Israël est fils de Dieu, mais c'est une manière de parler, évidemment. Puisque c'est Dieu qui a formé le peuple d'Israël, il faut le croire. David, ou un prophète, est un fils de Dieu, mais c'est métaphorique. C'est quand même pas Dieu qui l'a fait naître, il avait un père et une mère. Donc Jésus se réclame comme le. C'est précisément ça qui est au départ. Vous comprenez bien que tout ce discours, bien que Jésus l'a tenu, dans ces termes-là, je n'en sais rien, ces termes en sont en tout cas très johanniques. Mais vous comprenez bien que c'est toute une réflexion de l'église de Saint-Jean, la communauté, les communautés primitives, sur le rôle de Jésus. Comment faire valoir la qualité de Jésus comme fils devant des juifs qui croient dans des textes comme ceux-là.
Il y avait trois vecteurs, ou c'est prêtre, ou c'est prophète, ou c'est roi. Il faut bien choisir un des trois, donc il prend prophète.
Il prend prophète ici. À d'autres moments, il va prendre le roi.
Oui, devant Pilate.
Voilà. À d'autres moments.
Le Pilate le prend parce que c'est un prophète.
Non, c'est pas. On voit bien que c'est une réflexion seconde sur l'histoire. Oui.
Est-ce que les témoins de Jéhovah ne sont pas capables de part de toi, de toi toujours fils comme métaphore.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que le terme de fils est métaphorique jusqu'au moment où Jésus lui donne un visage humain. Mais dans les discussions avec les Juifs, c'est pareil, hein. Nous parlons de fils de Dieu, ils disent d'accord. Mais fils de Dieu, pour eux, c'est métaphorique. Et roi, pour eux, est réel. Et pour nous, c'est exactement l'inverse. Fils est réel, et roi est métaphorique. Mais vous voyez, c'est un des points de dissension extrêmement important, alors que nous utilisons le même vocabulaire. Mais si ce vocabulaire n'est pas un peu secoué, on est dans la pleine ambiguïté. Et c'est souvent ce qui se passe.
Je vais appeler Thor le fils parce que nous sommes aussi enfants de Dieu.
Alors, oui. Mais croire que Jésus est vraiment le fils de Dieu, c'est absolument impossible pour un juif. Parce que Dieu est un, que Dieu n'est pas communion intérieure, et je ne peux pas savoir qui est Dieu à l'intérieur, parce qu'il ne me le dit pas. De fait, dans les passages qui le disent le plus, ce sont des passages de sagesse, qui vont être une sorte de communication de Dieu avec quelque chose de lui-même, soit dans les passages prophétiques comme nous l'avons vu l'an passé, chapitre 63-64 d'Isaïe, où on voit l'Esprit Saint qui conduisait le peuple, et pourtant Dieu, tu es notre Père. Nous avions l'Esprit à la parole, nous avions l'Esprit Saint, et nous avions notre Père. Nous avions un langage qui était adapté à, au discours de trinitaire. Adapté, ouvert. Et donc l'Ancien Testament et les Pères de l'Église ont vu juste là-dedans. Hein, les pères de l'Église, voilà la présence trinitaire déjà dans l'Ancien Testament.
Dès la Genèse, faisons.
Tout à fait, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Pourquoi il parle au pluriel, faisons. On sait qu'il y a un nous en Dieu. Nous sommes plusieurs. Et il trouve saint, saint, saint le Seigneur. Pourquoi trois fois saint ? Il y a trois personnes. Etc. Il voit ça dans la vie. Mais c'est vrai que le langage est ouvert. Et c'est ça qui est intéressant de voir, que l'accomplissement ne crée pas quelque chose de neuf qui ne soit déjà ouvert. Il ne remplit que ce qui a capacité de recevoir ce qui rentre. Même dans le texte, dans la réalité et dans le texte. Et c'est pourquoi ce que Saint Jean fait ici, c'est nous expliquer le rapport qu'il y a entre Ancien et Nouveau Testament. Il y a une théologie. Et l'Ancien Testament n'est pas ancien au sens où il est dépassé. Il est ce qui est capacité d'ouverture à ce qui a fondé.
Remplissez tout déjà.
Remplissez tout déjà. Exactement. Et il est rempli jusqu'au. Vous voyez que c'est ça la difficulté de Saint-Jean, hein. C'est que, mine de rien, c'est un grand théologien. On l'appelait d'ailleurs comme ça, hein. Vous savez que dans la tradition, on appelle Jean le théologien. En théologos. Après cela, il s'éloigna Jésus au-delà de la mer de Galilée. Nous retournons en Galilée. Cette alternance, Jérusalem-Galilée, est constante. Et, par exemple, Bultmann et d'autres ont voulu mettre le chapitre 6 avant le chapitre 5. Et, sans avoir de preuves, bien sûr, ce sont des hypothèses, ils vous diront qu'il s'est passé dans la transmission des textes de Saint-Jean, il s'est passé ce qu'ils appellent une ur-catastrophe, une catastrophe originelle. Au départ. Et que, on ne sait pas pourquoi, on a interverti le chapitre 5 et le chapitre 6. Parce que, ils disent, regardez bien, au chapitre 5 commence la controverse. On se met en bagarre. Et la véritable controverse, vous la trouvez au chapitre 7. Donc, vous voyez bien, le chapitre 5 et le chapitre 7 vont ensemble.
Il faut d'abord laisser Jésus se révéler. 1, 2, 3, 4, 6. Et puis quand il s'est bien révélé, alors on commence à comprendre. Un peu comme chez Saint Matthieu, hein. Jésus se révèle jusqu'au chapitre 10. Et puis à partir de 11, alors, on dit déjà dans le discours d'un envoi en mission, il annonce cela, mais au partir du chapitre 11, c'est la bagarre. Mais pourquoi faut-il que Jean et Matthieu aient exactement le même schéma?
C'est l'histoire de chandelier, a prime.
Quoi, c'est quoi?
C'est ici, 5 barres avec 7, donc ah, ici, c'est au milieu.
Ici, pour la structure, nous allons voir que le chapitre 1, 2 et le chapitre 6 se répondent. Et que le chapitre 2, 3 et le chapitre 4, 5 se répondent. Et qu'au centre, nous avons un carré qui est, vous voyez bien, que le chapitre 4. C'est-à-dire la Samaritaine qui est le centre. Et nous verrons pourquoi.
Je vois qu'il n'est pas contre les femmes.
Il y a un argument à dominer. Je vois celui d'âme pour régir. Après cela, il s'éloigna Jésus au-delà de la mer de Galilée et de la mer de Tibériade. Il est le seul des évangélistes à nous parler de la mer de Tibériade. Là aussi, c'est probablement un souvenir. Or, le suivait une foule nombreuse parce qu'ils observaient les signes qu'il faisait sur les affaiblis. Donc, on le suit parce qu'il y a des signes. Or, il vint en haut vers la montagne. Jésus. Ah, on parle de la montagne. Vers la montagne. La montagne, pour le juif, c'est toujours un rappel du Sinaï. Or, suivant la tradition juive, que Jésus devait connaître à son époque, parce qu'on en parlait déjà au premier siècle, dans la tradition juive, le Sinaï accompagne chaque juif dans sa vie. Autrement dit, le Sinaï est une expérience spirituelle. C'est la montée vers Dieu, montée au Carmel, dira Saint Jean de la Croix. Et il vint en haut vers la montagne, Jésus. Il montre toujours, Jésus montre toujours cette aller vers le haut. Et là, il était assis avec ses disciples, mon fiancé. Et elle était proche de la Pâque, la fête des Juifs. Au final, que nous sommes aux environs de Pâques. Ayant donc levé les yeux, Jésus, et ayant observé qu'une foule nombreuse est bientôt près de lui, il dit à l'adresse de Philippe, Philippe qui a un nom grec, hein, « D'où achèterons-nous des pains afin qu'ils mangent cela ?» Or, ceci, il le disait, en le tentant. Donc ceci est une tentation. Jésus tente Philippe. Comme Dieu tente Israël au désert. Il tente Israël, c'est-à-dire, il le met en capacité d'agir librement. C'est ça, tenter. Tenter, c'est créer pour l'autre un espace de liberté. Mais comme souvent, on tombe dans le piège, c'est-à-dire, on n'est pas libre, donc la tentation est pour nous un phénomène plutôt négatif. En soi, la tentation est une bonne chose. Or, ceci, il le disait dans le tentant, car lui savait ce qu'il avait fait. Lui savait. Les hommes ne savent pas, mais lui sait. Il lui répondit, Philippe, des pains pour 200 deniers ne seront pas assez pour eux, afin que chacun prenne quelque chose de bref. Un petit truc là, qui lui est. Il lui dit, un seul d'entre ses disciples, Andréa, c'est aussi un prophète, le frère de Simon-Pierre, il y a un tout petit enfant, Aïdarion, vraiment un tout petit gosse, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, 2 petits poissons, mais tout est petit. Mais cela Ah oui, eux sont beaucoup. Et les esthètes qui arrangent. Et cela, qu'est-ce vers autant de personnes? Il dit Jésus, faites les hommes s'allonger. Or, il y avait de l'herbe nombreuse dans le lieu. Ils s'allongèrent donc, les hommes, environ au nombre d'environ 5 000. Il prit donc, ces dons qui sont amusants, ce qu'on appelait l'ironie johannique. Saint Jean nous fait tout le temps des clins d'œil comme ça en disant, essaye un petit peu de lire entre les lignes. Il prit donc les pains, Jésus, et ayant rendu grâce, il distribua à ceux qui étaient à table, semblablement aussi des petits poissons, autant qu'ils en eurent. Or, comme ils furent repus, il dit à ses disciples, assemblez les morceaux qui surabondaient, afin que quelque chose ne se perde pas. Ils assemblèrent donc. Et ils en prirent 12 couffins de morceaux des 5 pains d'orge qui surabondèrent de ceux qui s'étaient alimentés. Les hommes donc, et c'est donc qui s'accumule, ayant vu le signe qu'il fit, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui vient vers le monde. Et il n'avait pas accepté qu'il soit le prophète, mais voilà que les gens remarquent qu'il est le prophète qui vient vers le monde. Donc probablement celui dont on parlait dans le temps. Nous allons voir. Jésus donc, ayant connu qu'ils allaient venir et le ravir afin qu'il le fasse roi, prophète, roi. Sont-ils son roi? Son roi. Se retira de nouveau vers la montagne, lui seul. Généralement, on coupe là, et puis on s'arrête. Mais le texte continue, et vous allez voir qu'il faut continuer.